Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour, dans cette émission, au cours de laquelle Canal Academy vous proposera d'écouter les lectures de lettres d'amour que le roi Henri IV écrivit à ses belles, les officielles comme les non-officielles, nous avons le grand plaisir de recevoir Françoise Kermina, qui a fait paraître aux éditions Talendier, dans la collection La bibliothèque d'Evelyne Levert, Henri IV, j'ai tellement envie de vous, donc toute une sélection de lettres d'amour qui se situe entre 1585 et 1610 et écrite donc par le roi Henri IV. Françoise Kermina, bonjour.
Bonjour.
Françoise Kermina, vous avez consacré vos travaux à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Vous avez publié chez Perrin plusieurs ouvrages sur la Révolution française, dont Saint-Just, Les dernières charrettes de la terreur, un livre couronné par l'Académie française. Oui. Vous êtes membre de la Société d'histoire de France et vous avez fait paraître également aux éditions Perrin un livre sur la mère d'Henri IV, Jeanne d'Albret, et sur l'épouse d'Henri IV, Marie de Médicis, deux femmes flamboyantes, chacune dans leur genre, dont nous allons parler ensemble maintenant. Alors, votre histoire d'amour, à vous personnelle, Françoise Kermina, avec le bon roi Henri IV, quelle est-elle?
Je crois que c'est une histoire d'amour que partagent beaucoup de Français. Et ça commence vraiment dans le plus tendre âge. Henri IV apparaît tout de suite comme le héros de la geste française.
Au panache blanc.
Et le panache blanc. Et alors moi, personnellement, j'ai été amenée par les biographies dont vous venez de parler. D'abord, Jeanne d'Albret et Marie de Médicis. J'en ai parlé aussi dans un livre paru chez Perrin qui était l'histoire des Montmorency, parce que Henri IV a joué un rôle à l'époque où les Montmorency étaient flamboyants. Donc, Henri IV est un personnage auquel tout historien qui aime l'histoire arrive un jour ou l'autre.
Françoise Kermina, Mina, vous commencez l'introduction de votre ouvrage consacré à ces lettres d'amour d'Henri IV par la définition de vers galant. Qu'est-ce qu'on appelait vers galant et pourquoi Henri IV porte-t-il ce qualificatif, Henri IV le vers galant?
Oui, le vers galant, c'était une sorte de Robin des Bois, Robin Hood. C'était un personnage, un brigand qui rançonnait, mais qui rançonnait de préférence les riches, les méchants, et au contraire se mettait au service des pauvres, des orphelins.
Souvent un beau, hein.
Alors oui,
et alors en plus, Robin des Bois.
Et ce bandit aimait les femmes. Alors il était détrousseur de seigneurs et détrousseur de femmes. Alors c'était un personnage d'ailleurs très répandu dans le folklore de cette époque-là. C'est pas du tout. Je suppose qu'il y a eu d'autres hommes appelés des vers galants, mais ça s'est bien fixé sur Henri IV parce que justement c'était un peu un aventurier et il adorait les femmes.
Il adorait les femmes. Alors est-ce que l'on peut dire que Henri IV a été un enfant de l'amour?
Oui, justement, Henri IV a été baigné dans une atmosphère d'amour assez exceptionnelle parce que à cette époque-là, c'était très rare que les rois et les princes se mariaient avec la femme qu'ils aimaient. Donc, ses parents étaient des amants. Jeanne d'Albret, qui était une femme très volitive, enfin très énergique, très décidée, elle avait déjà refusé un premier mariage que François Ier lui imposait avec un prince allemand. Elle l'avait fini par l'épouser de force, mais le mariage n'avait pas été consommé. Et elle avait poursuivi jusqu'auprès du souverain pontife une demande d'annulation alors qu'elle avait 14 ans, quelque chose comme ça.
C'est magnifique.
Femme très décidée.
C'est une
très décidée.
Une des premières femmes qui a affirmé sa liberté d'expression.
Oui, d'ailleurs,
et
elle l'a affirmé après politiquement, c'est peut-être plus important. Et alors après, pour un deuxième mariage, elle a rencontré Antoine de Bourbon, qui était un Henri IV avant la lettre.
C'est-à-dire ?
C'était à la fois un homme très brave. D'ailleurs, les Bourbons avaient une réputation d'une race très vaillante. C'était un homme très brave et en même temps un très grand coureur.
Il était bien de sa personne,
oui,
Françoise
Kermina.
Oui,
c'est ça.
C'était un beau blond.
Il était peut-être plus beau qu'Henri IV n'a jamais été. Il manquait des qualités d'Henri IV, c'est-à-dire l'intelligence, la force de caractère. Au point de vue politique, il s'est conduit de façon assez médiocre. Alors, il y a eu entre eux... Alors, ils s'adoraient. On voyait d'après leurs lettres, il y a une correspondance qu'on a conservée. Donc, ils s'adoraient, mais ça n'a pas duré à cause de la légèreté et des infidélités d'Antoine de Bourbon et aussi parce qu'ils ont opté pour des religions différentes. C'était le moment où les princes, les seigneurs, les rois choisissaient leur religion. Et elle a choisi le calvinisme et lui, il n'a pas choisi le catholicisme. Il allait de l'un à l'autre, il était assez tiède en foi religieuse, mais elle, au contraire, elle était emportée, impérieuse. Elle a voulu instaurer le calvinisme dans ses états de force.
Voilà, alors la séparation à cause des choix confessionnels, mais certains observateurs soulignent aussi qu'Antoine de Bourbon était souvent comme beaucoup d'hommes à l'époque, sur les terrains de guerre.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, il est mort au siège de Rouen.
Et donc, la séparation des époux s'est faite. Et c'était un couple qui avait focalisé sur lui, justement, pas mal de regards, et même envieux, parce qu'ils étaient beaux, jeunes, pleins d'avenir. Ils s'aimaient beaucoup. Et c'était, comme vous le disiez, une espèce d'amour fusionnel qui reliait ce couple.
Oui, absolument. À la fois physique, morale. C'est vraiment un roman d'amour, les parents.
Un roman d'amour. Donc, le jeune Henri IV, c'est le fruit de cet amour.
Oui, mais c'est également le fruit. Ça a dû le rendre cynique en amour, certainement, parce qu'il était tout jeune quand son père est mort. Il avait une dizaine d'années, je pense. Mais enfin, il avait eu le temps de constater, d'entendre les querelles entre ses parents. Il était rejeté de l'un à l'autre. Quand il était avec son père, il assistait à la messe. Quand il était avec sa mère à la Seine. Enfin, il y avait continuellement un climat de querelle. Et alors, il a pu avoir une idée de l'amour assez cynique, finalement.
Et puis, assez lié à la religion, finalement.
Ah oui,
et puis, en allant de l'un à l'autre, quoi.
C'est ça,
en
c'est
passant
ça,
du catholicisme.
Ça explique aussi sa tolérance future.
Et puis, peut-être ses abjurations, comme vous le disiez.
Exactement. Dès l'enfance, il a constaté, j'allais dire, la vanité, c'est un peu léger pour quand on parle de religion, mais enfin, il a constaté l'inanité, si vous voulez, des querelles religieuses.
Dès son enfance.
Il en a souffert.
Donc, Henri IV se marie à quel âge ?
Très jeune, à 19 ans.
Et c'est un mariage arrangé.
C'est un mariage arrangé parce que c'était un mariage qui était concocté par Catherine de Médicis, qui était une femme très politique, qui a toujours cherché la conciliation entre les deux religions. Et Jeanne d'Albret, qui pourtant était une calviniste pure et dure, pour elle c'était épouvantable que son fils épouse une catholique, parce que Marguerite de Valois, la fille de Catherine de Médicis, était catholique et catholique fervente. Et alors c'est pour Jeanne d'Albret, il se mêle dans sa décision, dans son acceptation que son fils épouse cette princesse catholique, le fait que Jeanne d'Albret était capétienne, elle était la nièce de François Ier. Et alors, elle voyait déjà se profiler, étant donné la faiblesse de constitution des fils de Catherine de Médicis. François II était mort de très jeune, il n'avait pas d'enfant, les fils de Catherine de Médicis n'avaient pas de progéniture. Donc, se dessinait déjà l'avenir de Henri IV en tant que roi de France. Elle l'a vu certainement avant de mourir. Et c'est une des raisons pour lesquelles elle a accepté que son fils épouse une princesse catholique, parce que c'était une princesse Valois, parce qu'elle était la sœur du roi de France. Ça rapprochait, si vous voulez, son fils du trône de France.
Après ce mariage, il y a eu ce qu'on appelle les noces de sang.
Oui, immédiatement après. Parce qu'il y avait beaucoup de Huguenots qui avaient accompagné. Il est arrivé à Paris en tant que marié, en tant que pour ce mariage, accompagné d'une centaine de Huguenots. Alors donc, il y a eu des Huguenots dans Paris, une surpopulation huguenote dans Paris qui a exaspéré le petit peuple. Et puis, il y a eu surtout les crimes commis. Et à ce moment-là, ça a dégénéré, si vous voulez. Et Henri IV s'est trouvé prisonnier au Louvre. Il a échappé au massacre parce qu'il était prince du sang, tout simplement. Et parce qu'il était l'époux de Marguerite de Valois.
Ce jeune futur roi passionné aurait pu aimer Marguerite de Valois. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux ?
Moi, je crois qu'ils s'aimaient. Ils s'aimaient comme s'aiment. Ce n'était pas l'amour de Jeanne d'Albret et d'Antoine de Bourdon, mais ils se plaisaient. Ils avaient le même âge, 19 ans. Elle était très jolie. Il aimait les femmes. Et puis, ils étaient libertins l'un et l'autre. Ils se sont accordés beaucoup d'indulgence dans ce domaine-là. Ils ont été tous les deux souverains de Navarre dans la ville de Nérac, et ça a été une époque très heureuse de leur vie respective, et en même temps édifiante, parce que elle était donc restée catholique, le roi de Navarre était protestant, mais à Nérac, eh bien, on tolérait les deux religions. Quand Marguerite de Valois allait à la messe, Henri IV allait à la Seine, et point final, puis se retrouvait le soir pour danser, pour s'amuser, etc. C'était une vie très heureuse.
Le roi Henri IV écrit à la reine Marguerite de Valois, à Nérac, le 10 avril 1580.
Mamie, encore que nous soyons, vous et moi, tellement unis que nos cœurs et nos volontés ne soient qu'une même chose, et que je n'ai rien de si cher que l'amitié que vous me portez, pour vous rendre les devoirs dont je me sens obligé, si vous prierez de ne point trouver étrange une résolution que j'ai prise, contraint par la nécessité, sans vous en avoir rien dit. Mais puisque c'est force que vous le sachiez, je vous puis protester, mamie, que ce m'est un regret extrême, qu'au lieu du contentement que je désirais vous donner et vous faire recevoir quelque plaisir dans ce pays, il faille tout le contraire et qu'ayez le déplaisir de voir ma conduite réduite à un tel malheur. Vous êtes témoin de la peine que j'ai prise pour y apporter la douceur, ayant tant que j'ai pu rejeter les moyens extraordinaires pour espérer de la main du roi et de la reine, votre mère, les remèdes convenables. Tout cela n'a servi de rien. Le roi dit qu'il veut la paix. Je suis content de le croire, mais les moyens dont son conseil veut user tendent à notre ruine. Ayant aussi, par les dernières dépêches venues de la cour, assez connu qu'il ne faut pas endormir la condition des églises réformées, qui me requièrent incessamment de pourvoir à leur défense, je n'ai plus pu retarder et suis parti avec autant de regrets que j'en aurais jamais à voir, ayant différé de vous en dire l'occasion, que j'ai mieux aimé vous écrire parce que les mouvements nouveaux ne se savent que trop. Cependant, aimez-moi toujours, comme celui qui vous aime et estime plus que chose au monde. Ne vous attristez point, c'est assez qu'il y en ait un de nous malheureux, qui néanmoins, dans son malheur, s'estime d'autant plus heureux que son cœur devant Dieu sera juste et équitable. Je vous baise un million de fois les mains.
Donc tout allait bien entre les deux époux. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, il s'est passé d'abord que Henri IV s'est mis à aimer la Corisande, de la comtesse de Gramont. En plus, il s'est passé surtout que Marguerite de Valois était stérile. Alors, c'était très important à cette époque-là d'avoir des enfants. Et il y a eu une recrudescence des guerres civiles. Marguerite de Valois, qui autrefois avait été prise, presque fiancée avec le duc de Guise, ne s'entendait pas avec son frère Henri III. Pour se venger, elle a pris le parti de la Ligue qui était dirigée par le duc de Guise. Donc, elle a fini par se retrouver ennemie à la tête d'une petite armée contre son frère et contre son mari. Ce qui fait qu'elle a tout perdu. Elle a été en résidence surveillée pendant 20 ans dans une forteresse d'Auvergne. Enfin, elle a tout perdu. C'est comme ça que ça s'est passé, si vous voulez.
Donc, elle va mourir comment?
Marguerite de Valois?
Oui, Marguerite.
Elle meurt très âgée. Donc, elle a été en résidence surveillée pendant des années. Puis alors, quand Henri IV a voulu se remarier, pour avoir des enfants. Au moment des négociations de son mariage avec Marie de Médicis, il fallait obtenir le consentement de Marguerite de Valois. Elle y a consenti pour, en échange, elle a reçu des pensions considérables et le droit de revenir à Paris. Alors, elle est revenue à Paris, elle faisait partie de la cour, elle menait grand train, elle avait toujours une vie très libre parce qu'à ce moment-là, elle était assez âgée, elle avait des amants qui avaient 40 ans de moins qu'elle, mais elle était fastueuse, comme savaient l'être les princes de Valois, et elle était très charitable. Donc, elle a eu un rôle, elle était assez populaire. Elle est morte en 1615, 5 ans après Henri IV.
Est-ce qu'ils ont continué à conserver une correspondance
Ils étaient très amis à la fin.
Affectueuse.
Très. Et elle s'entendait très bien avec Marie de Médicis. D'ailleurs, elles étaient cousines, puisque Marguerite de Valois était Médicis par Catherine, sa mère. Donc, elles étaient cousines de ce côté-là.
Oui. Donc, les deux épouses officielles,
l'une après l'autre. Ça marchait très bien. Et quand le roi a été assassiné, elle a été l'une des premières, Marguerite de Valois, à se précipiter au Louvre pour proposer son aide à Marie de Médicis pour la soutenir au début de la régence.
Donc, un amour
affectueux. Elle est devenue une amie de la famille.
Comment est-ce que les choses se sont passées? Parce qu'il y a Gabriel d'Estrées qui fait son entrée.
Oui, c'est ça.
Et avant, je crois qu'il y a la comtesse de Gramont, non?
Oui,
dans l'ordre chronologique d'apparition à l'écran.
La comtesse de Gramont, c'est la période Henri IV, roi de Navarre. Et c'est tout à fait cette période-là, quand il a eu toutes ces chevauchées de Gascogne, quand il se battait contre les ligueurs, etc. Mais dès que l'instant, en 1584, je crois, le dernier fils de Catherine de Médicis et d'Henri II est mort, Henri III n'avait pas d'enfant, donc la perspective d'être roi se dessinait. Alors, il remontait vers le nord pour faire une guerre très différente, pour essayer de s'allier avec Henri III. Alors, à ce moment-là, il a oublié, tout simplement, parce que loin des yeux, loin du cœur pour Henri IV.
Hein, alors, cette pauvre comtesse de Gramont, dite Corisande, alors.
C'est ça. Alors, elle avait trouvé ce prénom de Corisande, mais c'était assez la mode à cette époque-là. Toutes les femmes prenaient des noms romantiques comme ça, souvent tirés dans des ouvrages romanesques. Alors, il y avait un ouvrage très romanesque qui s'appelait Amadis de Gaulle. C'était un ouvrage d'un Espagnol qui avait été traduit sous François Ier et qui avait un succès énorme dans toutes les classes de la société, surtout dans les classes supérieures, évidemment, de la société. Et alors, elle avait trouvé ce prénom que Montaigne, parce que c'était une amie de Montaigne, que Montaigne lui avait peut-être soufflé. Enfin bref, elle s'est appelée elle-même Corisande. C'est assez curieux parce que c'était une femme très sérieuse, très altière, une grande, très grande dame. C'est une coquetterie peut-être un peu, de midinette, mais enfin c'est bizarre quand même.
Alors l'homme de guerre, parce que là il était vraiment très présent.
Oui. Alors elle lui donnait des comptes, elle le soutenait. Et justement, comme elle s'inspirait des romans de chevalerie, elle se voyait comme la dame du chevalier. Et je ne sais pas si Henri IV était dans le même fantasme, mais en tout cas, il l'appréciait, il l'aimait. Alors, leur correspondance, elle est moins sensuelle, moins sentimentale qu'avec les autres maîtresses. Ça a dégénéré surtout quand ils ont été longtemps séparés. C'était une sorte de bulletin militaire, ils se renseignaient mutuellement. Elle lui était utile en tant que, pas agent, mais enfin, correspondante, restée en Gascogne. Bon, elle lui donnait des conseils, enfin, il la tenait au courant de tout ce qu'il faisait. C'était plus une amitié à la fin que ça avait changé de caractère, si vous voulez.
Donc un amour moins physique qu'avec
les
autres.
Oui, d'abord, ils ne sont pas beaucoup vus, finalement. Voilà, ils ne sont pas beaucoup rencontrés physiquement, c'est pour ça aussi.
C'était une aide de camp.
Puis alors lui, il était tellement léger, tellement coureur. Puis elle, je pense que d'après ce que j'ai pu lire d'elle et voir, elle avait un tempérament assez froid. C'était pas, et même pas tellement sentimental. C'était une femme, une intellectuelle, une femme très cultivée, très mondaine.
Le roi écrit à la comtesse de Gramont à Blois, le 18 mai 1589.
Mon âme, je vous écris de Blois, où il y a 6 mois, l'on me condamnait hérétique et indigne de succéder à la couronne. Et j'en suis à cette heure le principal pilier. Voyez les œuvres de Dieu envers ceux qui se sont toujours fiés à lui. Car y avait-il rien qui eût tant apparence de force qu'un arrêt des États? Cependant j'en appelais devant celui qui peut tout, qui a revu le procès, a cassé les arrêts des hommes, et m'a remis dans mon droit, et croit que ce sera aux dépens de mes ennemis. Ceux qui se fient en Dieu et le servent ne sont jamais confus. Je me porte très bien, Dieu merci, vous jurant avec vérité que je n'aime ni n'honore rien au monde comme vous, et vous garderai fidélité jusque au tombeau.
Donc l'avenir politique d'Henri IV se dessinant davantage.
C'est la vie qui les a séparés, tout simplement. Puis à la fin, quand même, alors là, il y a une véritable brouille, parce que elle était amie de Catherine de Bourbon, la sœur d'Henri IV, et la cette sœur d'Henri IV était une femme très intelligente aussi, un peu comme son frère, très calviniste. Et elle s'était éprise, alors son frère passait son temps à lui faire des propositions de mariage suivant son intérêt politique à lui, il ne s'occupait pas du tout de ses sentiments. Or, elle s'était éprise du comte de Soissons, qui était un cousin de la branche de Condé des Bourbons, la branche cadette des Bourbons, et elle voulait l'épouser, le comte de Soissons voulait l'épouser parce qu'elle était la sœur d'Henri IV et parce qu'elle était très riche. Et Henri IV, cette union lui déplaisait pour différentes raisons politiques, il envisageait autre chose pour sa sœur, et Corisande, la comtesse de Gramont, a eu l'imprudence de patronner une rencontre clandestine entre ses deux fiancés ou qu'est-ce qu'on croyait. Et Henri IV a réagi avec une rapidité féroce. Il a immédiatement envoyé des ordres aux notabilités, enfin aux responsables de Pau pour faire arrêter immédiatement le comte et le renvoyer dans ses foyers. Et quand elle, Catherine de Bourbon était aussi un peu en résidence surveillée. Quant à la comtesse de Gramont, elle a reçu une lettre très sèche du roi, qui d'ailleurs, je crois, figure dans ce recueil, où il lui dit « Mêlez-vous de vos affaires et que je ne vous y reprenne pas ». Et c'était la fin, ça a été la fin, ça. Alors après, elle lui a rendu quelques services, elle s'est réhabilitée à ses yeux, si vous voulez, et il lui a envoyé 2 ou 3 lettres amicales, mais la passion était complètement terminée. Et puis en même temps, à ce moment-là, il était en plein dans sa passion avec Gabrielle d'Estrées. Et elle a peut-être agi ainsi que ce que je viens de vous dire, de s'immiscer dans cette intrigue de façon imprudente, par jalousie, parce qu'elle savait très bien qu'il la trompait continuellement. Mais elle savait qu'il avait une liaison beaucoup plus sérieuse que toutes les passades qu'elle avait dû supporter. Elle connaissait l'existence de Gabrielle d'Estrées. Alors c'est assez curieux, c'est Roger de Bellegarde, qui était un des personnages les plus séduisants de la cour, qui était l'amant de cette Gabrielle d'Estrées. Et un jour, il dit à Henri IV, il décrit Henri IV la beauté de cette maîtresse. Alors Henri IV n'a eu qu'une idée, c'est de la voir. Et dès qu'il l'a vue, il est entré amoureux fou d'elle. Et alors la famille d'Estrées, qui était des gens, en ont profité, si vous voulez, pour obtenir des prébendes. Ils ont poussé, parce qu'elle ne voulait pas être la maîtresse d'Henri IV. Elle ne voulait pas, elle voulait rester la maîtresse de son Roger de Bellegarde qu'elle adorait. Et d'ailleurs, elle l'a trompé aussi, Henri IV, au début, toujours avec ce Roger de Bellegarde. Elle a mis longtemps à l'oublier, si vous voulez. Peu à peu, elle s'est attachée à Henri IV. Elle a eu des enfants de lui. Et alors à ce moment-là, elle a eu l'ambition d'être reine de France. Elle a mobilisé entièrement.
Oui, donc elle a eu 3 enfants.
Elle a eu 3 enfants, lui. 2 fils et 1 fille, oui, 3 enfants. Et dont on disait qu'ils étaient les enfants de Bellegarde, enfin, évidemment. Ça...
Alors, le roi trouvait chez elle, écrivez-vous, le roi trouvait chez Gabrielle toutes les qualités qu'il aimait chez les femmes, la beauté physique, mais ça, la douceur, la tendresse, la grâce.
Mais d'ailleurs, c'était l'opinion générale. Elle avait cette qualité-là, elle était extrêmement féminine, bonne, vous voyez, et c'est quand même très rare chez les... Vous voyez, Corisande, c'était pas du tout la même chose. Corisande était sèche, du reste, à la fin de sa vie, elle était très dure même. Mais Gabrielle d'Estrées, c'était une femme qui se laissait vivre, qui était charmante, qui était douce, qui était tout à fait ce qu'aimait, ce que, en général, les hommes aiment d'ailleurs, et puisque Henri IV aimait beaucoup.
Le roi Henri IV écrit à Gabrielle d'Estrées, à Marche Noire, le 10 février 1593.
Je ne sais de quel charme vous avez usé, mais je ne supportais point les autres absences avec tant d'impatience que celle-ci. Il me semble qu'il y a déjà un siècle que je suis éloigné de vous. Vous n'aurez que faire de solliciter mon retour. Je n'ai artère ni muscle qui, à chaque moment, ne me représente l'heure de vous voir et ne me fasse sentir du déplaisir de votre absence. Croyez, ma chère souveraine, que l'amour ne me violenta jamais comme il fait. J'avoue avoir tout sujet de m'y laisser mener. Aussi le fais-je avec une naïveté qui témoigne la réalité de mon affection, parce que je m'assure que vous n'en doutez pas. Je finirai ce discours pour en commencer un autre. Qui est que nos dames ont bien couru fortune et ont bien ressenti des incommodités de la guerre. Votre tante vous en écrit, à qui le parentage de mon bel ange servit fort. J'y fis ce que je devais. Je monte à cheval et vais dîner à Beaugency. Si monsieur de Guise est parti d'Orléans, demain, nous nous verrons. Mon tout, aimez-moi fort. Je te jure, mes belles amours, qu'en tout mon voyage, mes yeux ne verront qu'autant qu'il faudra pour raconter ce qui se passera par où je passerai. Ce voyage retardera mon retour de 3 jours. Bonjour, ma souveraine. Je baise 1 million de fois vos belles mains.
Henri IV est toujours marié à Marguerite de Valois,
oui, ça,
et
oui.
Il connaît donc cette nouvelle liaison avec Gabrielle d'Estrées.
Oui, alors justement, à ce moment-là, il y a une intrigue qui se noue, parce qu'elle et sa famille, qui la pousse évidemment, et ses partisans, parce que comme elle était charmante, elle avait réussi à se constituer un parti, justement. Et même les protestants l'aimaient beaucoup. Et donc, lui a sans doute promis le mariage, plus ou moins. En tout cas, plus le temps passait, plus elle avait tout à fait le statut d'une reine de France. Elle était toujours à côté du roi, elle avait un train de vie extraordinaire. Et alors, il a fini même par lui donner l'anneau du sacre. Enfin, vraiment, c'était presque des fiançailles. Seulement, pendant ce temps-là, il fallait pour épouser. Alors, elle était sûre d'y arriver. Enfin, elle était déjà sur le trône. Elle croyait être bientôt reine. Mais il y avait quand même le fait qu'il était marié. Alors, pour obtenir son annulation de son mariage, il fallait qu'il ait l'accord de Marguerite de Valois, qui ne voulait pas entendre parler, qui ne voulait pas être remplacée par cette femme, parce qu'elle avait très mauvaise réputation. Elle avait eu des amants, quand même, avant Henri IV, et après, elle en a eu aussi. Alors, donc, pour une reine de France, alors Marguerite de Valois ne voulait pas être remplacée par elle. Puis, enfin, elle était de petite noblesse, alors que Marguerite de Valois était une princesse capétienne.
Il y a une lettre qui écrit Marguerite de Valois au roi Henri IV ou à Sully.
Oui, à Sully. Elle parle de la dégriller bagasse. Oui, c'est l'expression qui traîne dans tous les manuels. C'est-à-dire la prostituée, ça qu'elle voulait dire. Donc, il fallait le consentement de Marguerite de Valois qui ne le donnait pas, et surtout le consentement du pape. Alors, le pape lui-même était opposé à cette union. Pour lui, c'était désastreux, là. Alors que justement, le trône de France venait de se rénover, de se régénérer. Henri IV venait de se convertir, tout allait bien. Mais ce mariage était insupportable pour des raisons morales. Alors là-dessus, bon, alors, tout le monde croyait, parce qu'il faisait tout pour faire croire qu'il allait l'épouser.
Maîtresse officielle du roi.
Maîtresse officielle et future femme. Et pendant ce temps-là, parce que c'est un homme très rusé, Henri IV.
Car pendant ce temps-là, le bon roi Henri entreprenait des négociations matrimoniales, n'est-ce pas, avec le grand-duc de Toscane pour épouser sa fille.
Il jouait sur les deux tableaux. Et alors, Henri IV, c'est un homme qui était hors du commun, mais aussi qui a eu toute sa vie une chance exceptionnelle, jusqu'à la fin, évidemment, où il a été assassiné. Mais il a, par exemple, pour commencer, je veux dire, il était le 3e fils, je crois, de ce fameux couple amoureux, Jeanne d'Albret. Hein. Et les deux autres, les deux aînés, deux fils aînés, sont morts en bas âge d'accident. Pas de santé, d'accident. Donc, il a été propulsé héritier du trône de Navarre. C'était déjà une chance. Et après, il a eu une chance extraordinaire que les 4 fils de Henri II et de Catherine de Médicis, les derniers Valois, meurt assez jeune et en plus sans progéniture. C'est également une deuxième chance. Alors, la troisième chance, ça a été la mort de Gabrielle d'Estrées, tout simplement. Elle est morte en avril 99, de manière affreuse. Elle a l'éclampsie. Enfin, l'éclampsie, c'est une maladie dans des accouchements. Elle était enceinte de 4e enfant. Et elle est morte de façon atroce, parce que complètement, il paraît qu'elle était hideuse, elle a beaucoup souffert, etc. Bon, elle est morte, ça a tout dénoué. À ce moment-là, il n'a plus qu'à recommencer ses négociations matrimoniales avec Marie de Médicis. Ce qui ne l'a pas empêché, il a eu beaucoup de douleur à la mort de Gabrielle d'Estrées, il a beaucoup pleuré, mais à peine quelques mois après, il prenait une autre maîtresse, et c'était la deuxième maîtresse terrible d'Henri IV, c'était Henriette d'Anthague.
Voici la lecture d'un poème attribué à Henri IV et adressé à Henriette d'Anthrague.
Le cœur blessé, les yeux en larmes, ce cœur ne songe qu'à vos charmes. Vous êtes mon unique amour, jour et nuit pour vous je soupire. Si vous m'aimez à votre tour, j'aurai tout ce que je désire. Je vous offre sceptre et couronne. Mon sincère amour vous les donne. À qui puis-je mieux le donner, roi trop heureux sous votre empire? Je croirai doublement régner si j'obtiens ce que je désire.
Il connaît déjà Henriette d'Anthrague quand il va faire venir donc à la cour de France Marie de Médicis.
Mais il a été bigame pendant longtemps. Enfin, bigame, évidemment, pas au point de vue de l'état civil, mais dans les faits, il a eu 2 femmes. Sa femme, et alors il faisait ponctuellement un fils à sa femme, un fils à sa maîtresse, une fille à sa femme, une fille à sa maîtresse. C'était scandaleux.
Donc là, Gabrielle d'Estrées meurt.
Oui, elle meurt en 99.
Le pape accepte de désunir le couple.
Oui, finalement, le mariage est annulé pour différentes raisons. Défaut de consentement, surtout. D'abord, absence de dispense, parce que le pape, au moment du mariage de Marguerite de Valois et de Henri IV, était un mariage mixte entre protestants et catholiques. Il fallait une dispense pontificale qui n'est jamais arrivée. Le roi de cette époque-là, Charles IX, le roi de France, a poussé les événements pour que ça se fasse en attendant la dispense. Et en plus, Marguerite de Valois n'était pas très consentante. Et on raconte toujours qu'au moment du mariage, au moment de dire le oui fatal, Charles IX a poussé sa sœur sur la nuque pour qu'elle baisse la tête, que ça soit un signe.
Elle n'aurait jamais dit oui.
Henri IV ne lui pesait pas au départ, puis enfin, elle en aimait un autre, elle aimait le duc de Guise. Enfin, on n'a pas été jusqu'à évoquer la non-consommation du mariage, parce que comme ils étaient connus tous les deux pour leurs écarts, dans ce domaine-là, c'était difficile à accepter.
Comment se passent les épousailles entre Henri IV et Marie de Médicis?
Elles se passent. Là, il y a une chose qui était également typique de Henri IV. Henri IV était un homme très chaleureux, débordant de chaleur. Alors, il s'est mis à écrire à sa fiancée sans la connaître. Il avait un portrait, comme on faisait à cette époque-là. Il s'est mis à lui écrire des lettres de plus en plus, presque égrillardes à la fin, même sans la connaître. Alors, Marie de Médicis s'est crue aimée.
Le roi écrit à Marie de Médicis, à Paris, le 11 juillet 1600.
Madame la princesse de Toscane, Frontenac vous a tellement dépeinte que je ne vous aime pas seulement comme un mari doit aimer sa femme, mais comme un serviteur passionné, une maîtresse. C'est le titre que je vous donnerai jusqu'à Marseille, où vous le changerez en un plus honorable. Je ne laisserai plus passer d'occasion sans vous écrire et vous assurer que mon plus violent désir est de vous voir et de vous avoir auprès de moi. Croyez-le, ma maîtresse, et que chaque mois me durera un siècle.
Il a trompé, si vous voulez, avant même de la connaître, en ayant l'air de l'adorer alors qu'il ne la connaissait pas du tout et que c'était un mariage d'État. Alors bon, elle arrive en France entourée de ses égards masculins. D'abord, le fait d'épouser le roi de France, c'était quand même... Et elle tombe immédiatement sur une maîtresse, sur Henriette d'Entrain, qui était déjà enceinte d'un fils de Henri IV. Parce qu'Henri IV avait fait une promesse de mariage à Henriette d'Entrain. Parce qu'Henriette d'Entrain se refusait à lui. C'était une femme très calculatrice, aucun cœur, aucune sensibilité. Et quand elle a vu qu'elle plaisait au roi, elle lui a fait payer. D'abord, payer en argent, sa première nuit en argent, et surtout une promesse de mariage. Alors, il s'est engagé, alors Sully poussait des crimes, enfin, il s'est engagé à l'épouser si, 6 mois après leur première nuit, elle était enceinte. C'est ce qui s'est passé.
Voici le texte de la promesse de mariage accordée par le roi Henri IV à Henriette d'Entragues, le 1er octobre 1599, au Bois Malesherbes.
Nous, Henri IV, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, promettons et jurons devant Dieu, en foi et parole de roi, à messire François de Balsac, sieur d'Entragues, chevalier de nos ordres, que, nous donnant pour compagne demoiselle Henriette Catherine de Balsac, sa fille, au cas que dans 6 mois, à commencer du premier jour du présent, elle devienne grosse et qu'elle accouche d'un fils. Alors et à l'instant, nous la prendrons pour femme et légitime épouse, dont nous solenniserons le mariage publiquement et en face de notre Sainte Église, selon les solennités en quel cas requises, et accoutumées pour la plus grande approbation de laquelle présente promesse, nous promettons et jurons comme dessus de la ratifier et renouveler sous notre sein, incontinent après que nous aurons obtenu de notre Saint-Père la dissolution du mariage entre nous et la dame Marguerite de France, avec permission de nous remarier où bon nous semblera. En témoin de quoi avons écrit et signé la présente.
Par chance, encore une chance extraordinaire de Henri IV, elle a accouché d'un enfant mort parce qu'elle se trouvait dans une maison à côté de l'église, je crois, Saint-Germain-l'Auxerrois, qui était frappée par la foudre. Et cette foudre, elle a eu tellement peur qu'elle a accouché et l'enfant était mort. Donc, il n'a pas eu à remplir cet engagement.
Ah, donc ce stratagème n'a pas marché.
Alors, c'est ça qu'il faut voir dans la situation de ces deux femmes, la reine et puis cette maîtresse, Henriette d'Entragues. C'est que Henriette d'Entragues, finalement, avait accepté de coucher avec le roi, mais non pas pour être sa maîtresse, mais pour être reine de France, puisqu'il avait fait une promesse de mariage. Elle avait été trompée, il faut voir ça aussi. Elle était toujours considérée comme la femme légitime du roi, et elle traitait l'autre de, j'allais dire putain, je m'excuse, c'était à peu près ça. Et les enfants de Marie de Médicis, de bâtards. C'est arrivé à un point, alors donc c'était une vie de tous les instants qui était insupportable, intenable, pour les deux femmes finalement. Et c'est arrivé au point que Henriette d'Entragues a participé à des conspirations contre la vie de Henri IV. Contre Henri IV et contre le dauphin, pour mettre à la place son fameux fils, parce qu'elle a eu un second fils après quand même, le fils qu'elle avait eu d'Henri IV. Alors ça a été, pour Henri IV et pour son royaume, une période très difficile quand même. Oui.
Donc elle aurait armé ou fait armer le bras de...
Non, parce alors que... là, c'est-à-dire que l'Espagne et l'Italie, le duc de Savoie plus exactement, et le roi d'Espagne n'avaient jamais vraiment admis d'avoir été vaincu par Henri IV. Il y avait eu le traité de Vervins en 1598, mais alors ils avaient, comme ils ne pouvaient plus l'attaquer par les armes, ils ont ensemencé, si vous voulez, fomenté des conspirations, et ces conspirations... Il y a quelques grands seigneurs qui y ont participé, en particulier le duc de Biron, c'est la conspiration de Biron. Alors, il s'agissait d'assassiner le roi et de substituer au dauphin ce fameux Gaston de Verneuil, qui était le fils du roi et de Henriette d'Entragues. Et le projet, c'était de, tout simplement de démembrer le royaume. La Savoie aurait pris une province, l'Espagne une autre, et Biron, lui, devait avoir une principauté indépendante en Bourgogne. Alors, Biron l'a payé de sa vie, il a été décapité. Mais Henriette d'Entragues n'a pas été inquiétée. Alors, ça se passait en 1602, mais en 1604, il y a eu à nouveau une conspiration où elle était beaucoup plus impliquée, mais Henri IV lui a pardonné, enfin, elle n'a pas été inquiétée.
Henriette d'Entragues est arrêtée. Elle est mise au cachot et il y a une lettre superbe qu'elle adresse en suppliante au roi Henri IV.
Elle a fait innocenter, lettre patente du Parlement, et elle a repris sa vie d'intrigue en parallèle avec la vie de Marie de Médicis. Alors Marie de Médicis était très malheureuse. Et Marie de Médicis avait un tort. Ils avaient chacun leur tort. Elle, Marie de Médicis, avait le tort d'avoir comme confidente qu'elle avait amenée d'Italie alors que Henri IV ne l'avait pas acceptée, la fameuse Leonora Galigai et Concini. C'était alors ses favoris qu'elle couvrait de présents et elle s'isolait, si vous voulez, avec ce couple italien. Reine de France, elle était une intrigante italienne, si vous voulez. Alors, Henri IV aurait voulu se débarrasser de Concini et de la Galigai, mais il aurait fallu en échange qu'il se débarrasse d'Henriette d'Entragues. Or, ça n'a jamais... Chacun, si vous voulez, avait sa faute, sa culpabilité.
On a soupçonné Concini d'avoir des relations avec la reine.
Non, pas du tout. La reine était une femme chaste et puis n'attachant pas beaucoup d'importance à ça, je crois, assez froide. Non, il n'y a rien eu.
Henri IV avait quel âge quand...
Quand il s'est marié. Il est mort à 50 ans. Il devait avoir 45 ans quand il s'est marié, oui. Non, même un peu moins, 43 ans. Mais il était vieilli par les combats. C'est une honte. Le supplice de la Galigai, c'est une honte. Finalement, c'était le favori de Louis XIII qui voulait s'approprier sa fortune. Voilà, tout simplement, parce qu'elle était très riche.
Mais est-ce que Concini, le duc d'Épernon, Henriette d'Entragues, ont pu tremper dans le dernier complot
Oui, ils ont trempé dans le complot de 1604. Oui, il y en avait des preuves, oui. Mais Henri IV a pardonné. Parce qu'il avait fait décapiter le duc de Biron en 1602, deux ans avant. Mais il a eu beaucoup de mal à s'y résoudre, parce que c'était un ami de toujours, c'était un frère d'armes. Il a tout fait pour essayer de faire avouer. Il y a des scènes d'ailleurs qui sont pathétiques. Il dit à Biron, mais je sais tout, parce qu'il savait tout, il y avait des dénonciations. Je sais tout, mais à vous, je te parle en ami, à vous, et je te pardonnerai. Et l'autre qui ne savait pas qu'effectivement les documents irréfutables étaient dans les mains d'Henri IV, c'est d'imaginer qu'il pouvait. Alors, il a été condamné à son corps défendant. Henri IV l'a condamné à son corps défendant. Vraiment, c'est un drame, ça, dans la vie d'Henri IV. C'est d'ailleurs la seule fois dans la vie d'Henri IV qu'il y a eu des exécutions capitales. Hein. C'est la seule fois.
Un dernier nom ? Charlotte de Montmorency, elle clôture la liste des amours, parce qu'elle-même, Charlotte, vous allez nous dire qui était cette jeune Charlotte de Montmorency, n'était pas amoureuse d'Henri IV, c'était
non,
un personnage vieillissant.
Non, pas du tout. Alors, c'était le même schéma, si vous voulez, que l'autre, que Gabrielle d'Estrées. Elle aimait beaucoup Bassompierre, qui était également Bassompierre, c'était un de ses seigneurs très séduisants qui paradait à la cour. Mais elle a été éblouie quand Henri IV l'a remarquée et lui a fait une cour assidue. Alors, si vous voulez, c'est une chose qui assombrit les dernières années de Henri IV vis-à-vis de l'opinion qu'on peut avoir de lui. Et parce qu'il a donné l'impression à l'Europe entière qu'il allait mettre l'Europe à feu et à sang pour retrouver cette femme-là. Alors, il l'avait mariée à son cousin, le prince de Condé, qui passait pour un homosexuel. Alors, il avait toutes les chances de son côté, si vous voulez. Il voulait avoir une liaison avec cette fille-là, mais c'était même pas ça. Enfin, bref, il était éperdument amoureux. Oui, il en avait l'air. Et en même temps, il préparait la guerre pour des raisons politiques avec l'Espagne. Alors, il devait traverser. Au moment où il a été frappé par Ravaillac, il s'apprêtait à partir en guerre, à rejoindre son armée, une armée colossale. Alors, il avait l'air, si vous voulez, de mobiliser la France entière pour retrouver cette femme. Alors qu'en fait...
Parce qu'elle s'était enfuie, donc.
Oui, c'était le prince de Condé, tout homosexuel qu'il était. Il ne voulait pas être coquifié par Henri IV. Alors, il l'avait emmenée, sa femme, tout simplement. Il l'avait emmenée dans les Pays-Bas. Il s'était réfugié aux Pays-Bas. Et c'était une désertion. Un prince du sang, c'était cousin germain du roi, un prince du sang qui quitte la cour pour aller se réfugier chez un prince étranger, alors qu'il y avait un début de guerre, et c'était une trahison finalement. Alors Henri IV était dans son droit de réclamer le retour de ce couple.
Et on a prétexté que c'était pour récupérer Charlotte de Montmorency, alors, dont il était passionnément amoureux.
C'est resté inexpliqué puisqu'il est mort. Il ne s'entendait pas expliquer puisqu'il a été assassiné quelques temps plus tard. Mais j'allais dire que c'était sa dernière chance, si vous voulez. C'est sa dernière chance, c'est d'avoir été assassiné avant de se rendre ridicule en allant, comme la guerre de Troie, en allant retrouver une Hélène. Enfin, là, la situation embrouillée et terrible où il s'était mis a été dénouée à son corps défendant aussi, là, vraiment.
Sully, qui lui n'a jamais partagé une vie aussi dissolue que celle du roi Henri IV, lui adressait souvent des conseils,
alors,
des reproches.
Mais Sully, alors, on peut mettre en doute ses mémoires, c'est quand même... Il a écrit ses mémoires après avoir été écarté de la cour, après l'assassinat de Henri IV. Il est resté un petit peu dans les allées du pouvoir pendant quelque temps, mais finalement, il a pris sa retraite. Alors, ses mémoires sont un peu remplies, si vous voulez, du dépit d'avoir été écarté du pouvoir. Alors, il se donne le beau rôle, si vous voulez. Alors, il se montre en arbitre, en particulier entre les époux, parce que Marie de Médicis et Henri IV manquaient d'en venir aux mains. Alors, il était là pour les séparer, si vous voulez. C'est un peu excessif. Faut pas trop le croire. C'est un peu excessif.
Henri IV, homme de guerre. Henri IV, le bâtisseur. Tout un parcours que nous avons suivi grâce à la présence devant les micros de Canal Académie de Jean-Pierre Bablon récemment.
Ah oui, bien sûr.
Henri IV, pacificateur avec ses guerres de religion. Donc, grâce à lui, l'édit de Nantes. Pacificateur des Français et puis en même temps reconstructeur.
Oui, absolument.
Alors, quand avait-il le temps d'écrire à toutes ces belles? Quand avait-il le temps de partager leurs couches et d'être là avec elles? Parce que vous allez nous dire, mais je crois qu'il avait un sentiment, une fibre paternelle très développée.
Très grande, très
il parle
grande,
beaucoup de ses enfants dans les lettres
pour lui,
qu'il adresse.
Pour lui, le fait d'avoir des enfants, c'était d'abord une nécessité politique, puisque ses prédécesseurs, les Valois, n'en avaient pas eu. Il fallait absolument que ce nouveau bourgeon fleurisse et qu'il y ait des enfants. Et en plus, il était une nature très généreuse. Il avait des enfants partout parce qu'il avait beaucoup de femmes. Il avait aussi des enfants que l'histoire a perdu de vue.
Il a combien de fils
six enfants avec Marie, trois enfants avec Gabriel d'Estrées, deux avec Henriette d'Entragues, deux avec une passade, Jacqueline Dubueil, et un avec une autre passade, le comte de Moret. Et le comte de Moret, paraît-il, était celui qui lui ressemblait le plus physiquement. Et alors, il y a des scènes célèbres qui traînent dans tous les livres d'histoire. Il reçoit le roi d'Espagne en jouant au cheval avec ses enfants. Oui, ça c'est vraiment...
Henri IV, bon père.
Bon père, très bon père.
Le roi écrit à Henriette d'Entragues, marquise de Verneuil, le 18 avril 1608.
Mes chers amours, je ne vous verrai point donc après l'accouchement de ma femme. J'avais déjà pourvu aux affaires dont vous m'avez écrit par l'abbé de Clergy. Il n'est point malade. Je m'en vais demain cours le cerf. Mon fils d'Orléans a été fort malade aujourd'hui d'un violent accès de fièvre qui lui a fini par un grand vomissement. Il se porte bien à cette heure, comme aussi fait tout le reste de mon ménage. Bonsoir, mon Menon. Je te donne le bonsoir et te baise.
Le roi écrit à Madame de Montglat le 8 juillet 1606 pour lui donner ses instructions.
Madame de Montglat, vous avez très bien fait, voyant que ma fille de Verneuil avait la petite vérole, de la séparer d'avec mon fils et mes autres enfants. Je vous fais ce mot par ce courrier, exprès pour vous dire que vous meniez loger mon fils et ma fille au logis neuf. Madame de Verneuil m'a demandé congé pour aller voir sa fille et la secourir, ce que je lui ai permis. Vous lui ferez bailler une chambre au château et qui soit commode. Et laissez mon fils de Verneuil au château, afin qu'elle le voie, si elle le désire.
Le roi écrit au duc de Sully en mai 1608.
Mon ami, je ne suis pas sans peine ayant ici tous mes enfants malades. Ma fille Verneuil a la rougeole, mais elle s'en va éteinte avec peu de fièvre, si bien que dans 2 ou 3 jours, je pense qu'elle sera guérie. Mon fils le dauphin a eu hier 2 vomissements, a un peu de fièvre et un assoupissement, avec mal à la gorge, qui fait croire au médecin qu'il couve la rougeole. Hier soir, ma fille aînée commença à avoir un peu de fièvre et eut aussi un assoupissement. Toutefois, elle n'a laissé de reposer cette nuit. Mon fils d'Orléans a toujours la fièvre continue, mais un jour plus forte que l'autre. Et il semble qu'elle soit une double tierce. Vous devez croire si avec tout cela je suis sans peine. Je vous donnerai tous les jours à vie de la santé de mes enfants.
Il avait des secrétaires, bien entendu, comme tous les souverains. Il avait des secrétaires, il avait même un secrétaire qui était chargé d'imiter sa signature. Mais enfin, quand on parcourt, quand on lit les lettres d'Henri IV, non seulement les lettres d'amour, mais les lettres à ses compagnons d'armes, il y a une telle verdeur, une telle spontanéité que ce n'est pas un secrétaire qui a écrit ça.
Vous le retrouvez, ah, votre Henri IV, absolument. Dans
pas dans les lettres missives au Parlement, des choses comme ça, ou des lettres de diplomatie. Mais dans les lettres de guerre, du courant de la guerre, viens un tel, rejoins-moi, viens, je viens, on va faire un bon coup ensemble, etc., des trucs comme ça. Et alors, avec ses femmes, bah, c'était évidemment lui qui les écrivait.
Je vous baise 1 million de fois les mains. Alors là, c'est là. Je baise 1 million de fois vos belles mains.
Oui.
Alors, il est
les
très,
yeux,
voilà,
oui.
assurant que
il
je suis...
Il les appelait tous de la même façon. Mais à cette époque-là, nos ancêtres ne s'appelaient pas dans la correspondance. Par exemple, je ne pense pas que la marquise de Sévigné appelait sa fille par son prénom dans sa correspondance. Je ne comprends pas. On s'appelait ma chère, mon ami, mon amour, mon ange, mon âme, mon cœur, des trucs comme ça, mais pas par les prénoms.
Si vous aviez à définir le caractère amoureux de notre roi Henri IV, que pourriez-vous nous dire en synthèse de tout ce parcours que vous avez fait en compagnonnage auprès de lui, à la découverte de tous ses textes?
Mais je crois qu'il a cherché l'amour, peut-être, comme nous disions tout à l'heure, par souvenir d'enfance, parce qu'il avait vu, il avait constaté un amour très proche de lui et qui lui avait donné la vie, finalement. Et il a donc cherché l'amour, certainement, sans jamais le trouver, parce qu'il n'a pas été aimé par ses femmes. Peut-être par la première Corisande, si. Mais c'est, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'était pas une passion sensuelle. Mais dans ses passions sensuelles, c'est-à-dire avec Gabrielle d'Estrées, avec Henriette d'Entragues, mais avec, je voudrais revenir sur le couple Marie de Médicis-Henri IV. Ils se disputaient continuellement, ils se querellaient sans cesse, mais finalement, ils s'entendaient bien quand même. Justement, il y a des lettres de Henri IV à sa femme qui sont charmantes d'affection. On a peu de lettres de Marie de Médicis, et même je crois que j'en cite une seule, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Mais il la traite avec beaucoup d'amitié et d'affection entre deux querelles, si vous voulez, entre deux liaisons, entre deux passades qu'elle ne pouvait pas tolérer. Mais ils se retrouvaient dans la vie quotidienne, ils aimaient les mêmes choses. Ils aimaient la table, ils aimaient les melons, ils aimaient les fruits. Ils aimaient la danse, et la danse avait une très grosse importance parce que c'était une Italienne. Ils aimaient les arts, les bâtiments et ils aimaient leurs enfants. Ils s'entendaient assez bien finalement.
Le roi écrit à Marie de Médicis le 3 septembre 1600.
J'ai reçu une lettre de vous le 16 août, par laquelle vous êtes en peine pour avoir été quelque temps sans avoir de mes nouvelles. Vous en aurez été en bref délivré, car bientôt après, vous en aurez reçu, et souvent depuis, n'ayant laissé passer une seule occasion sans vous écrire. Depuis ma dernière dépêche, j'ai pris Conflans, ville importante pour fermer le passage de la Tarentaise, et assez forte pour la difficulté d'y mener l'artillerie. Il y avait 1060 hommes bien armés, mais peu courageux. Je tiens un fort assiégé, la Charbonnière, qui est bon et bien garni, mais j'espère, avec l'aide de Dieu, en être maître cette semaine. Il ferme la vallée de la Maurienne, cela fait que tout la Bresse et la Savoie sont à moi. Fort les citadelles du bourg, de Montmélian et fort Sainte-Catherine, que j'assiégerai tout à mon aise et à ma commodité. Cependant, je fais de nouvelles levées, tant de Suisses que de Français, pour rendre mon armée composée à la fin de ce mois de 20 000 hommes de pied et 2 500 chevaux. C'est pour battre tout ce qui pourrait me venir sur les bras. Laissons la guerre pour parler de vous, ma maîtresse. Hâtez votre voyage le plus que vous pourrez, et pour ce faire, croyez et suivez surtout les conseils de monsieur de Sillery. S'il était bien séant de dire qu'on est amoureux de sa femme, je vous dirai que je le suis extrêmement de vous. Mais j'aime mieux vous le témoigner dans un lieu où il n'y aura pour témoin que vous et moi.
Mais vous savez, dans beaucoup de vies conjugales, on peut trouver ça aussi. À la fois des scènes, des querelles et en même temps un fond d'amitié quand même, de compagnonnage. Mais d'ailleurs, à la mort d'Henri IV, Marie Médicis, contrairement à ce que beaucoup l'ont accusé, a montré un chagrin extraordinaire, enfin vraiment un chagrin affreux, sans plus que c'était subit. Enfin, vraiment, elle était subjuguée par lui. Il y avait 20 ans de différence entre eux. Hein.
Un être sincère avant tout, Henri IV, dans ses amours?
Non, pas du tout. non, pas du tout. Comment sincère? Sincère sur le moment, oui. Sincère, oh, je ne sais pas, non. Il était assez rusé, hein, Henri IV, de toute façon, tout en étant extrêmement franc dans ses rapports, dans sa façon d'être, dans son comportement franc, spontané, toujours. Pas du tout rancunier, en cachant des dents, pas du tout, toujours très spontané. Mais dans son comportement, d'abord en tant que roi, enfin, il ne pouvait pas, un roi doit avoir recours à la ruse quand même pour gouverner, hein, évidemment. Et avec ces femmes, il leur promettait, ben justement, il passait son temps à leur promettre le mariage. Il n'y croyait pas du tout, il n'y avait pas aucunement l'intention de les épouser quand il leur promettait. Ça, c'est une ruse quand même.
C'est parce qu'elle le demandait.
Mais il promettait le mariage. Il a commencé avec une suivante, parce qu'il était tout terrain, paysanne, de grande dame, suivante, servante, tout ce que vous voulez. Et alors, il a commencé par une suivante de Marguerite de Valois, qui s'appelait la Fosseuse, je ne sais pas pourquoi, la petite Fosseuse. C'était une gamine de 14 ans qui bourrait de confiserie, c'est comme ça qu'il l'a eu. Et après, il lui a promis le mariage. C'est la première promesse de mariage qu'il a faite. Alors ça a fait un petit drame. Enfin, finalement, on l'a renvoyé dans ses foyers. Ça n'a pas Marguerite de Valois, n'en a fait qu'une bouchée. Mais ça a commencé comme ça, ses promesses de mariage. Il promettait le mariage à toutes les femmes. Mais il faut reconnaître que la promesse de mariage, c'était une coutume. Si vous voulez, ça équivalait à des fiançailles assez prononcées, si vous voulez. C'était vraiment un engagement, oui.
Il faut se remettre dans le contexte de l'époque.
Oui, il faut se remettre dans le contexte, oui.
Donc, c'était un homme d'engagement. Il s'engageait quelque part dans cet amour.
Oui, il voulait arriver à son but, qui était d'avoir la femme en question. Si on peut concluer sa vie amoureuse, je crois qu'on vient de le conclure en disant que c'était un homme qui, finalement, n'a pas été aimé. Il a été très aimé, mais par d'autres hommes. Il a été aimé par d'autres hommes, par tous les hommes qui l'entouraient. Vous parliez de Sully, certainement, et tous ses compagnons de guerre. Il a été adoré même par ces hommes, par ces soldats. Mais les femmes, non. Les femmes dont il a été entouré ne l'ont pas compris, à mon avis. Ne l'ont pas compris et l'ont aimé pour les besoins de la cause, quand ça leur était profitable, si vous voulez. Mais il n'a pas rencontré une femme... Je ferai une exception pour Corisande, quand même, la première. Mais ça n'a pas duré. Mais il n'a pas rencontré de femme à sa mesure.
Et il faut dire qu'il a eu une mère à sa mesure.
Oui, exactement.
Et c'est difficile de soutenir ensuite la comparaison.
Mais il aimait beaucoup sa mère.
Il a eu beaucoup d'admiration pour elle, pour son courage, et pour son esprit combatif, son intelligence, sa culture.
Oui, absolument. Elle était la fille de Marguerite d'Angoulême, la fameuse reine de Navarre, la première reine de Navarre.
Donc elle avait une mère, une grand-mère, de grande stature. Donc c'est vrai que pour retrouver au niveau des sentiments amoureux l'équivalent de ce qu'il avait reçu dans l'enfant, c'était un peu difficile, on mettait la barre un peu haute, mais comme vous le disiez, il n'a pas eu de chance de trouver...
Mais contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'a pas été le moteur de sa vie du tout, l'amour avec les femmes. Il a pris ce qu'il trouvait, et comme il est ardent et il aimait les femmes, et il a eu beaucoup de femmes, mais ce n'était pas ça le moteur de sa vie quand même. Le moteur de sa vie, c'était le pouvoir, tout simplement, oui. Le pouvoir, d'abord dans sa jeunesse, le pouvoir sur le champ de bataille, et puis après, le pouvoir politique, ça c'est certain. C'était un grand homme d'État, si vous voulez. Voilà ce que je voudrais dire. C'est la conclusion qu'on pourrait faire.
Merci, Françoise Kermina.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle aux éditeurs de Canal Académie de retrouver toutes ces lettres ardentes écrites par Henri IV à toutes ces belles qui ont partagé sa vie, ces lettres d'amour entre 1585 et 1610, dans la collection La Bibliothèque d'Evelyne Levert, aux éditions Talendier. Merci,
Françoise Kermina. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée, j'en suis ravie.
Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Ce diable à quatre a le triple talent de voir et se battre et d'être vert galant. J'aimons les filles et j'aimons le bon vin. J'aimons les filles et j'aimons le bon vin. Le long baudrille, voilà le gai refrain. J'aimons les filles et j'aimons le bon vin. Ô diable guerre, rancuneux et parti. Ô diable guerre, rancuneux et parti. Comme nos pères, chantons en vrais amis, au choc des vers, les roses et les lys. Vive la France, vive le roi Henri. Vive la France, vive le roi Henri. Car à son danse, en disant comme Paris, vive la France, vive le roi Henri. Vive le roi Henri.